que vous allez suivre est une rediffusion.
Autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Apolline Verlan-Raison à la réalisation. Les gens ne sont pas des robots, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et pourtant, on peut utiliser des nombres pour comprendre les comportements humains. Ceci dans les domaines les plus divers, qu'il s'agisse des intentions de vote, du taux de criminalité ou de la propagation des épidémies. Peut-on déduire des lois qui permettent des prédictions et de là en tirer des décisions politiques? Certains scientifiques le pensent. Les maths sont parfois utiles, mais où commence leur usage abusif? Peut-on mettre l'humanité dans un logiciel informatique? Nous allons y voir plus clair avec notre invité Pablo Jensen qui vient de publier « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ». Pablo Jensen, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation » aux éditions du Seuil. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon. Donc, vous avez d'abord étudié la matière, les atomes, et aujourd'hui, vous vous intéressez aux systèmes sociaux, c'est-à-dire aux gens. Vous travaillez avec des informaticiens et des chercheurs en sciences sociales. Alors, comment est-ce qu'on peut passer de cette science dite dure qu'est la physique à des sciences humaines? Est-ce qu'il y a des relations entre les atomes et les gens?
Alors un chercheur est ému par sa curiosité d'abord, donc s'il ne s'amuse pas en faisant ce qu'il fait, ce qu'il cherche au quotidien, je pense qu'il ne fait pas de la très bonne science. Et donc j'ai travaillé effectivement sur la modélisation des matériaux pendant une quinzaine d'années et j'ai eu envie de voir ailleurs et je profite disons de la liberté qu'on a en tant que chercheur du CNRS pour changer de thématique. Et j'avais toujours été intéressé, on va dire de manière culturelle ou politique, par les systèmes sociaux et donc je m'étais dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils de modélisation qu'on apprend quand on est physicien avec les systèmes sociaux? Est-ce qu'on peut passer des atomes aux atomes sociaux, hein? Et c'est pas une idée nouvelle en fait, hein.
Déjà, votre livre donc s'appelle « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ». Il faut déjà dire ce qu'est une équation, hein. L'équation la plus célèbre, c'est E égale MC2. Une équation, c'est une sorte de phrase mathématique qui relie des variables avec un signe égal, hein. Donc en physique, ça marche très bien, c'est même la base de la science. Mais en sociologie, est-ce que c'est possible d'établir des équations de ce genre?
Donc une équation, effectivement, ça met en rapport deux quantités, hein, une qui est à gauche du signe égal et une qui est à droite du signe égal. Et ce que ça dit, en gros, c'est qu'il y a quelque chose qui est stable et qu'on peut transformer l'un dans l'autre. Si vous prenez un exemple qui est une équation chimique, d'accord, vous arrivez à dire, je prends telle molécule qui a telle formule chimique et je peux la transformer en une autre formule chimique. Et ça, c'est quelque chose qui est tiré des expériences. Ça tombe pas du ciel, on l'a pas inventé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire que quand vous avez une équation, regardez la relation stable que vous avez empiriquement, donc avec des réactions chimiques. On sait que la matière se conserve depuis Lavoisier, on connaît ça. Et donc, une équation n'a de sens et d'intérêt que si elle s'appuie sur quelque chose d'empirique. Donc, si vous faites des équations sociales et que vous n'avez rien d'empirique derrière, les mathématiques, ça ne sert à rien. Donc, oui, il ne faut pas se laisser intimider par les mathématiques.
Ça marche en physique et en chimie, puisque les atomes, ou alors une pierre qui tombe, par exemple, hein, si on connaît sa vitesse, sa position initiale, elle va toujours tomber au même endroit et on peut prédire sa position de chute. Mais les gens, eux, ils sont imprévisibles. Alors, comment est-ce que... C'est une gageure de vouloir les mettre en équation.
Oui, oui, tout à fait. Mais on comprend que ça fascine aussi. On vit dans un monde incertain, où on a des centres de pouvoir qui essayent, disons, de canaliser l'action des humains et les conduire pour leur profit ou pour le bien commun. Des fois, c'est ça l'ambiguïté. Et donc, ça fascine et on a envie de mettre les gens en équation. Et en fait, donc, des fois, on force un peu cette envie et on met des équations là où en fait il n'y en a pas. Et donc, en gros, sur les gens, sur les individus, on reste loin de la prévisibilité de la pierre, effectivement.
Donc, il y a des scientifiques qui pourtant y croient, hein, qui essaient de mettre en équation alors à la fois le taux de criminalité, hein, le taux de chômage. Donc, on peut relier, par exemple, hein, le taux de délinquance au nombre de gens, à la population, à la taille des immeubles, au nombre d'installations sportives ou culturelles, à la couleur politique de la municipalité, par exemple. Hein. Il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a même des scientifiques, hein, vous citez des scientifiques, qui pensent que 95% hein, du comportement humain peut être prédit. Alors, est-ce qu'ils délirent complètement, ces gens ?
Il délire un petit peu quand même. Si vous prenez l'exemple là de ce 95%, donc c'est un chercheur qui est très connu et qui dit, voilà, dites-moi où vous êtes maintenant et je peux vous prédire dans une heure où vous serez avec une probabilité de 95%. Dit comme ça, on se dit, ça y est, on est complètement encerclé, fiché, et à Big Brother qui nous regarde. Et en fait, quand vous regardez, c'est vraiment les détails des articles techniques, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder les articles techniques. Eh bien, en fait, en gros, ce 95%, déjà, c'est parce que si vous êtes en train de dormir chez vous, j'ai de bonnes chances de prédire que dans une heure, vous serez encore chez vous en train de dormir avec 100% ou 99%. Et donc, vous voyez, ce 95, c'est en gros un mélange d'inertie du social où vous allez travailler tous les jours au même endroit, où vous dormez tous les jours au même endroit. Et une fois qu'on défale que ça, il ne reste pas grand-chose de prévisibilité additionnelle, en fait.
En tout cas, il y a des comportements pour lesquels les prédictions sont très utiles. Ce sont les élections. Eh bien, justement, écoutons cette archive des élections présidentielles de 2017.
Il ne reste que quelques secondes avant de découvrir notre toute première estimation Ipsos Soprasteria. Quel est le verdict des Français pour ce second tour ? Qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État ? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français ? Il est 20h. Voici le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix.
Pablo Jensen, alors votre livre « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation » finalement est un peu contredit par ce qu'on vient d'entendre, puisque là, à ce moment-là, il est 20h passé de quelques secondes, et déjà on peut avoir le nom du président, alors que les bureaux de vote ne sont pas complètement dépouillés, c'est-à-dire qu'on fait appel à des équations, à des lois, puisqu'on se sert d'un petit échantillon pour ensuite extrapoler, et finalement ça marche quand même assez bien.
Donc ça marche assez bien. Disons, l'endroit où ces équations sont utiles, c'est quand on peut dire que le social a une certaine inertie et que demain sera comme aujourd'hui. Et en fait, si vous regardez la manière dont ces prédictions électorales sont basées, donc c'est en fait, on regarde les bureaux qui ferment à 18h, d'accord ? Et donc, on a des informations réelles sur un tas de villes qui ont voté de telle ou telle manière, et on sait dire, si ça se passe comme les dernières fois, eh bien en fait, on peut extrapoler à la France entière. Et donc, là, ça marche parce qu'on a suffisamment de données fiables, puisque c'est des votes réels, et qu'on extrapole à ce qui s'est déjà passé, et qu'il y a une certaine constance du social, quand même. Donc, si demain, c'est pareil qu'aujourd'hui, je peux faire des prévisions.
Oui, mais donc, c'est-à-dire qu'il y a des lois, quand même.
Bah, c'est pas des lois, c'est des régularités. Pourquoi appeler ça des lois ? Il y a quelques régularités. Mais prenez les sondages bien avant les élections présidentielles, là, quand les choses changent, c'est-à-dire que vous avez des nouveaux candidats qui arrivent, Macron, etc., bah au début, c'est quand même très difficile de prédire ce qui va se passer. Et en fait, tant que c'est stable, on arrive à prédire, mais on n'a pas besoin de loi pour prédire ça.
Mais on a quand même la notion d'échantillon représentatif qui, finalement, est assez pertinente, puisque quand on dit à 20h et quelques, hein, quel est le nom du président, on a un échantillon représentatif de la population française en âge, sexe, profil socio-culturel, professionnel, etc. Donc cette donnée-là n'est pas absurde.
Non, bien sûr, c'est pas absurde, mais disons, en gros, si vous avez suffisamment de données fiables, vous pouvez ensuite extrapoler un petit peu. Donc, disons, une extrapolation petite, c'est relativement fiable et on sait bien faire ça et c'est très important de le faire. C'est un peu comme la météo, vous pouvez dire là aujourd'hui, demain, on sait que ça va être à peu près comme aujourd'hui, il va y avoir 30 degrés d'écart. Donc, il y a certaines régularités aussi dans le monde social qu'il faut exploiter, voilà, mais ça va jamais très très loin en fait.
Alors là, où ça devient plus compliqué, c'est de prédire le résultat bien avant les élections. Et pourtant, il y a des mathématiciens qui y croient, comme notamment Serge Galam, qu'on va entendre.
Ce que j'ai calculé et ce que je montre, c'est que pour la première fois, il existe une faille, ce que j'ai appelé l'abstention différenciée. Ce que j'introduis dans cette abstention différenciée, c'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'électeurs qui disent qu'ils vont aller voter pour Macron ou pour Fillon, c'est pas les mêmes, mais chacun a une partie d'électeurs, le font à contre-cœur, malgré eux. Et donc, beaucoup d'entre eux n'iront pas jusqu'au bout de ce choix forcé. Ils vont plus s'abstenir, et c'est en ça que l'abstention, elle va se différencier selon qu'on regarde la participation pour Marine Le Pen ou pour son challenger. Pour une intention de vote pour Marine Le Pen et pour une participation pour elle, je calcule automatiquement, si on peut dire, la hauteur du mur à franchir pour le challenger. Et à partir de là, on obtient le seuil critique, la frontière au-dessous de laquelle une participation moindre fait qu'elle gagne, même si elle n'a pas 50% d'intention de vote.
Donc on vient d'entendre Serge Galam, qui est un mathématicien, et qui lui établit des équations pour prédire les résultats des élections. Et vous, donc Pablo Jensen, dans votre livre « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation », vous lui taillez un petit costard justement à Serge Galam. Alors expliquez-nous.
Alors c'est un physicien en fait qui a travaillé d'abord sur de la matière, comme moi d'ailleurs, et... Disons, alors, quand il parle de l'abstention, il faut être précis sur ce qu'on, disons, si on veut vraiment l'analyser, quand il parle de l'abstention différentielle, en fait, ce qu'il fait, c'est une règle de trois assez simple. Donc, si effectivement les électeurs au deuxième tour, mettons, les électeurs de Macron s'abstiennent beaucoup plus que les électeurs de Le Pen, c'est assez simple à comprendre. Il n'y a pas besoin de faire des mathématiques très compliquées pour comprendre que Le Pen peut gagner. Effectivement, si les électeurs de Le Pen votent et les autres ne votent pas, ben, c'est clair que Le Pen va finir par gagner. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de grandes équations pour dire ça. Après, quand il essaye de faire avec des équations bien plus complexes et de prédire des choses à plus long terme, en fait, ils se plantent comme tout le monde, en fait. Donc, c'est pas... Voilà, il faut pas se laisser abuser par ces rideaux de fumée mathématiques où on fait plein d'équations. Ces équations-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, si elles ne reposent pas sur des choses stables empiriquement, et c'est pas le cas, malheureusement, des équations de Galam, elles ne reposent pas sur grand-chose. Il fait des jolis modèles, mathématiquement, c'est des jolis modèles, mais la connexion avec le monde réel, elle est absente.
Quand vous dites une stabilité empirique, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire des faits qui sont toujours stables au cours du temps.
Vous aviez pris l'exemple de la pierre tout à l'heure. On a constaté depuis bien longtemps, avant que Newton arrive et fasse ses équations, d'ailleurs, que si vous lâchez une pierre, elle tombe. Aristote disait ça. C'est des régularités. Il se trouve que c'est comme ça. Le monde est fait qu'à certains endroits du monde...
Voilà. Enfin, mais les gens, eux, ils ne vont pas voter toujours de la même façon, toutes choses sont égales par ailleurs.
Il y a une certaine inertie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une certaine inertie du social, mais qui est relative, en fait. Et donc, tant que ça reste comme ça, vous pouvez prédire, vous restez dans un tunnel de prédictibilité, mais très vite, en fait, le social peut changer du jour au lendemain et vous avez Macron qui débarque et le PS qui s'effondre. Et ça, c'est très difficile à prédire.
On a vu la même chose aux États-Unis aussi avec l'élection de Trump que finalement, personne n'avait prédit.
Voilà, tout à fait. Donc, en gros, le social, vous pouvez faire, disons, confiance à vos équations tant que rien ne change. Mais là où on aurait vraiment besoin, c'est là où les phénomènes changent et vous surprennent. Et ça, voilà, c'est un fantasme de penser qu'on va pouvoir prédire des révolutions, des choses comme ça. Personne n'y est jamais arrivé.
Oui, mais cela dit, vous ne jetez pas non plus le bébé avec l'eau du bain, puisque les maths sont quand même parfois utiles. On ne peut pas se dire, parce qu'on est des humains, on échappe totalement à toute modélisation. Les maths permettent de faire justement des sondages, permettent d'avoir une vision de la société. Donc, il ne faut pas non plus rejeter complètement les maths, et c'est ce que vous faites aussi.
Non, tout à fait. Disons, il faut, faut faut les mettre à leur place, donc il ne faut pas fantasmer sur des prédictions à long terme, mais en revanche, les maths comme instrument de logistique, en fait, je prends cette image, c'est-à-dire quand vous voulez combiner énormément d'actions et les rassembler dans un centre pour faire des statistiques, justement, comme sur les sondages, par exemple, vous rassemblez, ça suppose que ce soit un organisme qui rassemble et qui fasse des échantillons représentatifs, ou alors que vous vouliez essayer de déterminer que les enfants des ouvriers ont beaucoup moins de chances de faire des études supérieures, vous ne pouvez pas vous baser sur un cas ou un autre cas isolé. Il faut rassembler ça, faire des statistiques, et là les maths sont très importants.
Eh bien justement, on va y venir après une pause musicale. Geneba et Fusco qui interprètent Regrets. Autour de la question, nous recevons le physicien Pablo Jensen pour son livre « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ?» Pablo Jensen, vous nous parliez des résultats du bac. Et bien justement, voici quelques souvenirs sonores pour certains d'entre nous.
Devant les panneaux d'affichage, c'est la libération. Les premiers cris de joie, les premiers rires.
Ah, je suis content, c'est bien, c'est une bonne chose. Franchement, félicitations à tous qui l'ont eu.
On est trop soulagés là, parce que là... On va chercher nos résultats.
Dans ce lycée, le CRU 2016 s'annonce bon avec 233 admis sur 301 candidats. 43 ont encore une chance au rattrapage qui débute demain. Cette année, 700 000 lycéens tentent de décrocher le bac. L'année dernière, près de 9 sur 10 avaient réussi.
Alors on pourrait se dire hein, quel rapport avec ces résultats du bac est le thème de notre émission, la société et les équations. Eh bien, c'est que il y a des chiffres qui permettent de décrire la société, et des chiffres finalement qui sont assez stables. Hein. Dans votre livre, vous parlez par exemple du chiffre suivant. Les parents qui ont accédé à l'université parviennent à y envoyer 62% de leurs enfants, alors que ce chiffre tombe à 5% seulement pour les enfants dont les parents ne possèdent aucun diplôme. diplôme. Donc là, on a bien des maths qui décrivent la société. Ça ne veut pas dire que ces règles sont figées, ce sont des règles probabilistiques, hein, c'est-à-dire on a plus de chances d'accéder à l'université si on a des parents qui eux-mêmes ont fait des études universitaires. Donc, mais pour vous, alors physicien, comment vous pouvez utiliser ces chiffres et qu'est-ce que ça peut nous enseigner justement sur la société ?
Et je pense que c'est un bon exemple d'un bon usage des mathématiques, mais qui ne sont pas là pour donner des lois, disons, qu'on ne pourrait pas changer. Il n'y a pas de fatalité.
Ce ne sont pas des lois déterministes.
Hein. Voilà, ce n'est pas la loi de Newton. Voilà. Donc, mais c'est très utile de pouvoir aller au-delà du cas particulier d'un tel ou un tel et de dire, voilà, ce n'est pas, c'est pas la faute d'un tel qui n'est pas intelligent s'il n'y est pas allé. C'est vraiment quelque chose de massif. Et donc, c'est un phénomène collectif qui fait prendre conscience que les ouvriers ont des problèmes parce que, voilà, et là, on peut se tourner vers des causes sociologiques, familiales, culturelles, voilà.
La connaissance de ces lois permet justement d'y échapper et de ne pas les prendre comme voilà. Quelque chose de figé, justement. Donc c'est là que les maths peuvent être utiles puisqu'elles permettent de relativiser, finalement.
Voilà, exactement. Et de faire d'un cas particulier, de le mettre dans un contexte et de donner aussi le moyen aux gens de se dire, ben, je suis pas isolé, je suis dans un collectif qui, voilà, qui est, bon, comme ça, on a construit la classe ouvrière, donc même si le terme n'est pas aujourd'hui aussi à la mode, mais disons, ça permet d'aller au-delà du cas particulier. Donc les mathématiques, pour combiner et agréger des choses, sont intéressantes, mais on est très loin de l'idée d'une loi. Ça met en valeur une régularité.
Mais justement, dans votre livre, il y a quelque chose d'intéressant. Vous expliquez un petit peu la naissance hein, de la statistique sociale et vous dites que finalement, c'est au 19e siècle à peu près qu'on s'est aperçu à partir d'un chiffre assez bizarre, a priori, c'est que le taux de suicide était relativement stable, finalement, au fil des ans, environ 8 pour 100 000 habitants. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu plus élevé, ça dépend des pays, hein, globalement. En France, je crois que c'est à peu près une douzaine de suicides pour 100 000 habitants. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est un phénomène, a priori, imprévisible, individuel, mais que finalement, au niveau de la société, il y a une stabilité. Alors ça, c'est assez étonnant.
Oui, ça a énormément étonné les gens au début du 19e siècle, donc 1830, 1840. Mais vous voyez bien que déjà, on voit la centralisation des données par un État. Donc c'est vraiment relié à la naissance des États forts et centralisés qui essayaient de manager leur population. Mais en fait, ça a frappé les esprits. Mais si on fait aujourd'hui une analyse un peu plus rigoureuse, on se rend compte que c'est pas si stable que ça, en fait. Et que en fait, cette stabilité, elle traduit une sorte d'inertie du social. Supposez que les gens se suicident pour des causes amoureuses ou pour des causes économiques. Si ces causes-là ne changent pas, et on voit bien que voilà, tout ça n'évolue pas sur l'échelle d'un an, eh bien, en fait, il n'y a pas de raison que le nombre de suicides change beaucoup. Il change pas mal, mais voilà. Et du coup, ce n'est pas une vraie régularité qui serait une loi qui contraindrait, disons, le déterminisme. Et en tout cas, ça ne permet pas de prédire du tout ce qu'une certaine personne va faire. D'accord ? C'est quelque chose qui montre que la société évolue lentement, en fait.
Mais vous, en tant que physicien, alors, à quoi ça vous sert d'avoir fait des études de physique pour comprendre les phénomènes sociaux ? Dans votre livre, hein, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites des analogies, par exemple. Hein, alors, il y a les atomes qui constituent la matière, et puis il y a les individus qui constituent la société. Est-ce qu'on peut dire que les gens, hein, vous, moi, les auditeurs, nous pouvons nous comporter un petit peu comme des atomes avec des lois qui finalement sont parfois des lois qui ressemblent à des lois physiques, des lois de magnétisme par exemple, on peut s'attirer les uns les autres, s'imiter les uns les autres, se repousser aussi.
Oui, disons, les analogies sont tentantes et évidemment on cherche des régularités et en gros, on se comporte comme des sortes d'atomes sociaux dans quelques contextes, c'est-à-dire si on est au volant de sa voiture, vous voyez, on n'a pas beaucoup de choix, de possibilités, on veut aller à un endroit donné, on doit respecter les règles du trafic et donc, en gros, quand notre comportement est suffisamment canalisé, suffisamment circonscrit, eh bien, on peut essayer de prédire des choses et c'est comme ça qu'on arrive à une certaine prédictibilité, on va dire des bouchons, des... voilà. Mais cette analogie entre des atomes qui se rejoignent pour faire un matériau et des individus sociaux qui seraient des atomes qui composent la société est assez superficielle. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, elle ne tient pas la route une fois qu'on la regarde de plus près, en fait.
Et ce qui est intéressant également, c'est que le comportement de la société dans son ensemble, ça n'est pas la somme du comportement de chaque individu. Il y a aussi un exemple aussi très éclairant, justement, c'est que supposons, dans une une ville, hein, que chaque personne désire habiter dans un quartier mixte, hein. Par exemple, bon ben voilà, un blanc peut vouloir habiter dans un quartier assez métissé, hein. Mais si chacun fonctionne comme ça, au total, on pourrait croire qu'on arrive à une ville mixte, hein, où les noirs et les blancs sont mélangés, mais finalement c'est l'inverse. On arrive à une société complètement, une ville complètement séparée, où les noirs sont d'un côté, les blancs de l'autre. Alors expliquez-nous ça.
Ça c'est assez paradoxal, et c'est l'intérêt de ces petits modèles simples, conceptuels, c'est de montrer que nos manières intuitives de modéliser sont parfois erronées en fait. Et l'intérêt des maths, c'est de modéliser de manière rigoureuse et donc de nous aider à mieux penser. Et donc dans ce modèle de Schelling, en fait, il y a un modèle de ségrégation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que le résultat collectif de ce que chacun essaye de faire n'est pas forcément le même que celui que chacun poursuit indépendamment. C'est aussi un peu l'idée de la main invisible d'Adam Smith, vous savez, pour le marché. En gros, il dit...
De quoi
chacun...
s'agit-il ?
Donc,
oui.
C'est l'idée d'Adam Smith et en fait de l'idéologie du marché, qui est de dire chacun suit son propre égoïsme, mais la main invisible du marché va faire que finalement, bah, tout se passe bien et tout le monde est satisfait grâce au marché, en fait, qui arrive à coordonner toutes ses actions a priori égoïstes. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui marche très bien dans les modèles très abstraits, mais dans la pratique, ça ne marche pas.
Ouais, parce que chacun pense à soi, mais finalement ne pense pas aux autres. Hein,
et... Voilà, exactement. Et donc, ça fait ce que les économistes appellent des externalités. Donc, il y a des conséquences sur les autres qu'on ne prend pas en compte. Et ça, ça induit des mauvais effets globaux. Et donc, il ne faut pas... Disons, c'est intéressant de pouvoir le montrer très concrètement dans un modèle où on peut suivre pas à pas. Et on voit bien que notre raisonnement qui nous dit le grand, c'est pareil que le petit, mais juste voilà, à une autre échelle, ça ne marche pas comme ça. C'est assez contre-intuitif.
C'est un peu la différence, en disant, entre les humains et les fourmis. Si on prend, disons, une colonie de fourmis, si chaque fourmi va dans le même sens, toutes les fourmis vont aller dans le même sens. Alors qu'avec les humains, c'est pas la même chose. On peut imaginer que chaque humain veuille aller dans le même sens, hein, dans un sens physique ou bien social, mais qu'au final, la société est complètement chaotique ou même va dans le sens complètement inverse.
Oui, on est bien plus complexe que les fourmis, ça fait pas de doute.
Donc disons, le bien-être du groupe n'est pas égal à la somme du bien-être de chacun.
Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut se coordonner et du coup, il ne faut pas laisser juste chacun agir à sa guise. Il faut des règles, il faut une coordination voilà, un peu centralisée pour le bien commun, en fait.
Donc, autour de la question, pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ? Alors, donc, il y a des scientifiques, hein, qui essaient de faire des modèles alors, dont les applications sont déjà très concrètes, hein. On ne parle pas uniquement de théorie. Par exemple, aux États-Unis, il y a des gens, des policiers, des politiques qui essaient de mettre en place des logiciels pour prédire la criminalité. Écoutons cet extrait sonore.
Le capitaine Rick Armendariz est le numéro 2 de la police de Modesto.
Comment ça s'est passé aujourd'hui ?
Super, merci.
C'est lui qui a décidé de se lancer dans la police prédictive il y a 2 ans.
Là, c'est le bureau des analystes.
Son choix s'est porté sur un logiciel créé par une société privée, PredPol, qui lui coûte 30 000 dollars par an. Un outil qui dit prédire l'avenir à partir des statistiques de la police.
On a transmis à PredPol toutes nos données des 10 dernières années en se concentrant sur le type de crime, le lieu du crime et la date et l'heure du crime.
Seuls ces 3 types de données sont utilisés.
Ce que PredPol fait, c'est qu'ils analysent ces informations du passé. Et avec une équation mathématique, ils nous disent où il y a de fortes probabilités qu'aient lieu les futurs délits.
Rick Armendariz n'en sait pas plus sur la formule mathématique. Peu lui importe. Ce qui compte pour lui, ce sont les résultats.
Ce qu'on voit, c'est que fin 2014, il y a une réduction de la délinquance. En fait, ce sont même des baisses à 2 chiffres.
De combien ?
Par exemple, on a vu une baisse de 27% des cambriolages, une baisse de 14% des vols. La seule chose qui a augmenté, ce sont les arrestations.
Alors pour Pablo Jensen, alors cette police prédictive, c'est un outil très utile ou bien un modèle terrifiant, Big Brother ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Déjà, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est évaluer de manière un peu scientifique et un peu générale le succès. Parce que là, on entend effectivement ce policier qui vous dit, voilà, dans mon petit secteur à moi, ça a fait ça. Est-ce que c'est vraiment dû à Predpol ou pas? Disons, si on veut être sérieux, il faut quand même pouvoir faire une étude un peu scientifique. Et le problème de tous ces logiciels commerciaux, c'est que, comme il dit, c'est des boîtes noires, c'est des équations. Et moi, j'ai l'intuition que c'est plus de la poudre aux yeux, on va dire. Voilà, on met des équations, ça fait sérieux. Et des évaluations objectives qui ont été faites de ces logiciels-là, il n'y en a pas beaucoup. Et en général, ils révèlent qu'on ne voit pas, grand-chose. Il y a eu récemment un article assez intéressant, d'un chercheur qui avait évalué l'utilisation. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était surtout utile aux policiers pour visualiser. En gros, ils se servaient de la carte pour se repérer et dire « Ah oui, c'est dans ce quartier-là, etc. » C'était plus un outil de visualisation que de prédiction vraiment intéressante, en fait, quand on fait un bilan. Donc, on fantasme beaucoup. Les équations, c'est puissant et ça a un air de puissance qui lui vient de la physique. Et en physique, c'est vrai. Mais voilà, on tend à extrapoler cette puissance-là dans le social et c'est plus un fantasme en général qu'autre chose.
Oui, et puis on n'a pas forcément besoin de logiciels ou d'équations mathématiques pour savoir qu'on a peut-être plus de chances ou de risques de se faire agresser dans un quartier malfamé la nuit que dans un quartier huppé en pleine journée.
Voilà, et en fait, il y a une différence forte entre la physique et le social, je crois, c'est qu'en physique, on aborde des mondes inconnus. Les atomes, les galaxies, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas d'intuition a priori. Et donc, dès que la physique dit des choses, ça nous apprend, ça nous surprend. Sur le social, on a une connaissance du social de première main. On sait beaucoup de choses. Et donc, c'est très difficile, en fait, même grâce à des équations, d'apprendre des choses qu'on ne connaissait déjà. Et donc, prédire qu'effectivement, dans certains quartiers, on va se faire, on a plus de chances de se faire attaquer, on le savait avant les équations. Il y a peu de choses que les équations nous apportent qu'on ne sache déjà sur la société. En fait.
Mais il y a aussi quelque chose de fondamental dans votre livre, pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation, c'est cette différence entre les humains et puis des atomes ou des pierres qui tombent, c'est que ce que vous appelez le facteur de réflexivité des humains, autrement dit, le fait qu'on réagit au modèle. Alors expliquez-nous ça.
Mais a priori, quand vous faites un modèle d'une pierre ou d'un électron, il semble que ces objets-là ne soient pas très, très concernés par les modèles qu'on fait à propos d'eux. Et donc, ils ne vont pas se modifier leur comportement parce qu'ils se savent observés ou ils se savent décrits. Alors que les humains, c'est clair que si vous prenez un exemple, vous faites une prédiction, il va y avoir une émeute à tel endroit, vous envoyez plein de policiers qui sont un peu agressifs parce qu'ils disent « qu'est-ce qui se passe ici ? Il va y avoir une émeute ». Et donc, probablement, ça peut générer l'émeute en question. Et donc, c'est clair que les modèles qu'on fait sur les humains, ça interpelle les humains, ils peuvent rétroagir. Et donc, politiquement, c'est aussi très différent de modéliser des atomes ou des électrons ou des pierres. Et donc, voilà.
C'est ce qu'on appelle un peu une prophétie auto-réalisatrice. On va créer soi-même ce qu'on anticipe, d'une certaine façon.
C'est l'horoscope de Raymond Devos quand il lit à sa femme et qu'il lit dans son horoscope qu'il va se disputer avec sa femme et qu'il s'approche de sa femme. Il lui dit « Mais pourquoi tu m'engueules ?» etc. Et sa femme réagit, elle l'engueule et dit « Bah voilà, vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'on avait prédit. »
Cet horoscope matrimonial de Raymond Devos nous offre une belle transition pour notre intermède musical du groupe Dream Wife qui joue Hey Earthbreaker.
Yeah.
Autour de la question avec le physicien Pablo Jensen, pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ? Pablo Jensen, donc les gens sont des entités complexes, hein, encore plus complexes hein, que les objets physiques. Donc on pourrait se dire qu'il est très difficile de les mettre en équation puisqu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas, énormément de paramètres. Et pourtant, il y a bien des domaines où il existe aussi beaucoup de paramètres qu'on arrive quand même à maîtriser. Par exemple, vous parlez de la météo, des prévisions météorologiques. Donc là, on n'y arrive pas complètement, mais on peut quand même arriver à prédire le temps à un ou deux ou trois jours près.
Oui, tout à fait. Il me semble que c'est un bon exemple pour comparer la complexité du social et la complexité du monde physique. Parce que par rapport à la chute de la pierre, là on se dit c'est facile, il n'y a qu'un objet ou le système solaire. Les simulations climatiques, c'est vraiment un système très très complexe. Et en un mot, pourquoi on y arrive quand même à peu près? C'est parce que, je reviens à mon idée fixe, ça c'est ces idées de stabilité. Eh bien en fait, dans la physique a montré que vous avez la conservation de l'énergie, la conservation de certaines grandeurs comme ça, qui font que ça vous donne une sorte de charpente très forte qui contraint vos simulations et vos modèles. Vous pouvez vous appuyer dessus et du coup, le modèle, même s'il n'est pas parfait, puisqu'il y a beaucoup de paramètres, effectivement, le fameux vol du papillon, vous savez, qui, s'il bat des ailes à l'autre bout du monde, peut vous affecter le climat à côté, enfin la météo. Eh bien, malgré ça, la charpente qui vous garantit une certaine fiabilité de vos prédictions, c'est ces équations de conservation que la physique a démontrées et a établies dans plein de contextes différents. Donc ça rend les prédictions assez robustes.
Donc on y arrive, disons, pour les prévisions météorologiques, puisqu'on a des ordinateurs de plus en plus puissant, mais est-ce qu'on pourrait pas se dire que pour les humains, ça pourrait être la même chose si nos ordinateurs devenaient de plus en plus puissants? Par exemple, on parle de plus en plus du big data, c'est-à-dire des données énormes. On peut engranger dans des ordinateurs des milliards de données qui nous concernent tous. Alors, ça peut faire peur, évidemment, mais finalement, est-ce que ce sont pas des données totalement incontrôlables? Est-ce que ça peut permettre de faire des prédictions fiables, ces big data?
Alors, je pense que c'est très important et ça pose des problèmes politiques énormes. On a vu avec la fuite de Facebook là, vers Cambridge Analytics, enfin disons, il y a ce scandale et donc il faut être très très vigilant sur ces données privées. Est-ce qu'elles permettent de faire des prédictions? Eh bien, à mon avis, les prédictions, vous voyez, les équations, c'est toujours un tunnel de stabilité. Si vous n'avez pas des relations stables, comme pour le climat, l'énergie, s'il n'y a pas des choses qui se conservent, eh bien en fait, vous ne pouvez pas tellement faire des prédictions, d'accord? Donc, les prédictions au sens où on l'entend comme ça, ça ne marche pas bien. Même si vous avez énormément de données, ce n'est pas ça qui vous permet de faire des prédictions. Là où les données permettent quand même de faire des choses, c'est prenez l'exemple d'Amazon. Amazon, vous visitez, vous regardez une quinzaine de livres et il vous dit « Ah tiens, les gens qui ont regardé ces livres-là ont aussi regardé tel et tel livre. » D'accord ? Et donc si vous avez énormément de données, pour n'importe qui, vous allez trouver quelqu'un d'autre qui a à peu près regardé les mêmes livres et ils vont vous dire bah, « Si vous vous ressemblez, eh bien, c'est probable que tel livre que vous n'avez pas consulté, ça puisse aussi vous intéresser, mais pas parce qu'ils savent ou prédire ils savent prédire des choses avec des équations, c'est juste parce qu'ils mettent à côté les deux profils de visite des deux personnes, ils se disent bah, ils se ressemblent pas mal et donc qui se ressemble ça semble, on va dire, et ils utilisent des dictons de ce style-là, si vous voulez. Ça va pas plus loin que ça, mais si vous avez énormément de données, c'est très efficace et l'algo d'Amazon marche pas mal, effectivement. Mais vous voyez, il n'y a pas un truc magique derrière, c'est oui. Juste voilà, vous vous ressemblez, donc vous devez sûrement faire la même chose après.
Et le problème, hein, comme vous l'écrivez, c'est qu'il y a un tel degré d'enchevêtrement des relations humaines que cela devient totalement inextricable. Hein. On ne maîtrise jamais toutes les variables. Hein. Prenons par exemple les intentions de vote. Vous écrivez que les ouvriers qui habitent dans une zone pauvre votent travailliste à 90%. C'était une étude qui avait été menée en Angleterre. Donc on pourrait se dire, ben voilà, les intentions de vote dépendent du milieu social, mais finalement, ils votent à 60% seulement travaillistes quand ils habitent dans une zone riche. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un paramètre qui est l'endroit où l'on habite. Et des paramètres comme ça qu'on ne maîtrise pas, il y en a des dizaines. C'est ça le problème des relations humaines.
Voilà, on ne sait jamais où s'arrêter. C'est-à-dire, c'est jusqu'où vous allez pour définir la complexité d'un individu? Est-ce que c'est son âge, son sexe, sa profession, etc.? Et cette liste-là, pour les atomes de physique, vous pouvez la clore. Vous savez qu'il y a 3 ou 4 paramètres importants et le reste, ça va. Donc vous pouvez isoler votre atome physique et comprendre ce qu'il va faire. Un atome social, justement, c'est pas un atome parce qu'il est tellement enchevêtré avec toutes les autres entités qu'il est défini par ces entités. Vous ne savez jamais où vous arrêtez. Tout peut être important. Et donc c'est ça qui rend les prédictions très difficiles.
Et pourtant, il y a des mathématiciens qui y croient. Écoutons par exemple Peter Turchin.
Et si l'effondrement social était pour demain? C'est ce qu'annonce le mathématicien Peter Turchin. Selon lui, ou plutôt selon les équations historiques et mathématiques qu'il a appliquées pour prédire l'évolution des sociétés, la fin est pour 2020. Précisément, il s'agirait du fait d'atteindre en 2020 un pic d'instabilité sociale et de violence politique. Des faits confirmés selon le scientifique par l'élection de Donald Trump en novembre dernier. Une prédiction vers laquelle nous nous dirigeons selon le scientifique, mais qui n'est pas irréversible si notre société et nos dirigeants ouvrent les yeux et utilise cet outil mathématique pour faire certains choix. Une théorie basée sur la cliodynamique comprenait une discipline créant des modèles mathématiques à partir de données historiques. Il a donc étudié l'évolution des sociétés humaines entre 1500 avant Jésus-Christ et l'an 1500 ans afin de prédire l'évolution de notre propre société.
Alors, Pablo Jensen, donc ce Peter Turchin n'est pas un fantaisiste, hein, donc il nous prédit avec des équations mathématiques, des études très savantes, qu'il y aura un effondrement précisément en 2020. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors,
Il ne donne pas l'heure exacte. Dommage, ça doit bien être dans les équations pourtant.
Pourtant, il est professeur en université, c'est pas un charlatan alors. Comment expliquer ça?
On retrouve beaucoup de thèmes qu'on a déjà évoqués, cette fascination pour les équations, si on doit dire en deux mots, on n'a pas besoin d'équations pour savoir que le monde est de plus en plus instable. Trump, le Brexit, on sait bien que le monde est instable, d'accord? C'est pas dans les équations qu'on le trouve, ça. Et honnêtement, les équations n'apportent rien de plus, donc il n'y a pas de stabilité qu'il aurait pu vraiment construire depuis, il dit qu'il fait des analyses depuis moins 1500 années avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de régularité suffisante pour vraiment établir ces équations-là. Moi, j'y crois pas du tout.
Oui, mais alors c'est quand même grave si des scientifiques, des universitaires avec des modèles mathématiques finalement abusent le citoyen de la même façon que les astrologues et Madame Soleil, en fait. Puisque les mouvements sociaux, par exemple, on les explique toujours a posteriori, les révolutions, on dit ah oui c'est parce que ça allait mal que forcément ça devait arriver, et puis finalement donc on va fêter l'anniversaire de mai 68, et 68 c'était l'inverse, tout allait bien, alors on a dit ah c'est parce que tout allait bien, et finalement on explique toujours a posteriori mais jamais...
Les prédictions sont plus difficiles dans le futur effectivement, donc quand vous regardez, et je pense qu'il y aurait une anthologie à faire de ces un peu illuminés qui prétendent dire ce qui va se passer grâce à des équations. Je pense qu'on pourrait faire toute une anthologie de ça. Et honnêtement, il ne faut pas les prendre trop au sérieux. Il vaut mieux analyser vraiment les causes profondes, de la crise économique, la crise écologique, l'accumulation de richesses, les inégalités. On a déjà des choses bien plus intéressantes à se mettre sous la main que des équations fantaisistes.
Mais là, vous faites référence à des illuminés, mais il n'y a pas que ça, puisque il y a aussi dans les ministères, des gens très sérieux qui mettent en place des algorithmes, par exemple, pour la santé, la propagation des épidémies, pour savoir, essayer de prédire le taux de chômage, l'évolution même des migrations, par exemple. Ce sont des modèles qui sont utilisés aujourd'hui.
Oui, alors prenez par exemple, si on essaye de voir concrètement, empiriquement si ça marche, donc prenez les modèles de prédiction de la croissance, d'accord, qui sont très importants politiquement puisqu'ils permettent d'établir le budget. Eh bien, des gens ont comparé en fait la prédiction qu'on fait avec les modèles de croissance très très compliqués, des gens sérieux dont vous parlez là, eh bien en fait, on a comparé ces prédictions à une prédiction beaucoup plus simple qui est l'année prochaine, la croissance sera la même que cette année. D'accord, j'ai pas besoin de grandes équations pour dire ça. Eh bien, en fait, les deux modèles donnent à peu près, sont aussi fiables l'un que l'autre, en fait. D'accord. Donc voilà. Il faut
donc ça
pas
veut dire
alors
que les économistes hein, qui brandissent hein, des équations, des graphiques, finalement, ne font pas mieux que n'importe qui dans une conversation de bistrot, quoi.
Bah, disons que je pense que les graphiques et les choses, qui, les prédictions qu'ils vous montrent, vous parlent plus des gens eux-mêmes qui ont fait la prédiction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont envie de voir venir, est-ce qu'ils ont envie de voir que la croissance grandir, etc., plus que vraiment ce qui va se passer. Donc,
Oui, mais en faisant ces modèles, ils ont eux-mêmes un effet, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a un effet, enfin une prophétie auto-réalisatrice, et peut-être que justement, en prédisant la croissance, peut-être qu'elle va arriver justement parce qu'on l'aura prédite, mais peut-être qu'au contraire, il va y avoir une réaction inverse, un esprit de contradiction.
Voilà, et je pense qu'effectivement, ces prédictions de croissance, dans leur tête, je pense qu'elles jouent plus le rôle d'une sorte d'entraîneur. En gros, on va dire, voilà, on va se projeter là-dedans et on va essayer d'entraîner les gens vers cette prédiction-là, plus qu'un instrument fiable, prédictif, au sens où on pourrait parler de la prédiction du mouvement d'un satellite ou tout ça. C'est vraiment plus un instrument politique pour guider, on va dire, l'économie. Et je pense qu'ils en sont conscients, en fait. Hein. Et voilà, plus que quelque chose de scientifique. Mais le scientifique, là, et les équations viennent légitimer et donner une crédibilité. Parce que si vous faites une prédiction et qu'elle ne semble avoir aucune crédibilité, bah, personne ne va être entraîné par cette prédiction-là. Donc il y a une sorte de jeu de dupe un peu, voilà, duquel, voilà, il ne faut pas être trop dupe non plus quand même.
Voilà, Pablo Jensen, vous n'êtes pas non plus anti-math, hein, mais vous prenez plutôt alors, une vision écologique et non seulement logique de la rationalité humaine. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Donc j'emprunte ça à Herbert Simon, en fait, hein, qui est un économiste d'ailleurs, matheux. Disons que il ne faut pas imaginer que notre raison est mathématique et purement logique, en fait. La logique, c'est très bien quand on est dans des univers mathématiques, quand on fait des sudoku, quand on fait des jeux mathématiques ou quand on est dans les maths. Mais quand on est confronté à la réalité, elle n'est pas si logique que ça. Et donc, il faut avoir une approche plus raisonnable, peut-être, que purement rationnelle. Il y a un exemple très simple, c'est si je vous propose, est-ce que vous voulez avoir 10 millions d'euros tout de suite ou est-ce que vous voulez avoir, on fait une chance sur 10 pour que vous en gagniez 200 millions. Qu'est-ce que vous prenez 20 millions tout de suite,
tout de suite moi, je le prends tout de suite.
Voilà, ouais. C'est ça. Alors que rationnellement, en économie, on vous dira, ben non, vous avez, si on calcule l'espérance de gain, vous aurez bien plus de chances de gagner.
La plupart des gens les prennent.
Voilà, et les économistes vont vous traiter d'irrationnel, alors qu'en fait, voilà, c'est un exemple, c'est pas illogique de faire ce que vous avez fait. C'est bien plus logique, mais dans un univers un peu abstrait, on pourrait calculer que c'est pas logique, mais voilà, et ça serait une raison qui ne serait pas écologique, quoi. Il faut.
Eh bien, pour terminer l'émission, Pablo Jensen, nous allons écouter l'un de vos choix musicaux, c'est Mercedes Sosa, le nom du morceau Todo Cambia. Pourquoi ce morceau ?
Donc je suis argentin d'origine et Mercedes Sosa est une chanteuse fétiche pour tous les Argentins. Et cette chanson Todo Cambia, ça veut dire tout change. Et donc si tout change, c'est difficile de prédire et de mettre le monde en équation.
Voilà, Todo Cambia.
Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia.
Pablo Jensen, merci. Donc je rappelle le titre de votre livre, Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation, aux éditions du Seuil. Portez-vous bien, merci de votre fidélité et dans quelques instants, les infos sur RFI.
Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.